exactement ce que nous vivons quand il y a une discussion WhatsApp téléphonique entre deux frangins, un qui habite en Israël et l'autre qui est resté à Miami. Eh oui, qu'est-ce qui se passe ici? On est à la fin de la paracha de Vayera qui fait en fait la fin de Lech Lecha Vayera. Si je devais compter les péripéties d'Abraham entre Lech Lecha et Vayera, on peut y aller? Alors, le mec, il a quitté sa maison, sa famille, tout le monde. Il est parti tout seul. Changement de pays. Ensuite, la famine. Ensuite, il descend en Égypte, il y a le roi qui veut prendre sa femme. Ensuite, il revient, il se dispute avec son neveu, il se sépare encore une fois de la famille. Ensuite, il fait la guerre. Il est pris dans la Première Guerre mondiale. Ensuite, il doit... avant Avimler, ensuite, il doit gérer le fait qu'il n'a pas d'enfant et qu'il a une servante et un enfant et ça crée des problèmes à l'intérieur de la maison. Sa femme, elle n'en peut plus. Ensuite, on lui dit, écoute, c'est bien gentil, mais il faut que tu te coupes un bout. Ensuite, on lui dit, il faut que tu changes de nom. Ensuite, finalement, on lui donne un fils, mais lui, il dit, ouais, d'accord, mais j'ai un autre fils et il devient juge et parti pour la ville de Sodome. Ensuite, il doit gérer un nouveau problème avec un nouveau roi, Abimelech, rebelote sa femme, rebelote, on lui reprend, on lui retruque, machin. Hein. Ensuite, il doit virer son fils de la maison. Ensuite, il doit gérer des problèmes territoriaux avec ses amis des Philistins. Et finalement, on lui demande de tuer son fils. Et finalement, il n'est pas mort.
Heureusement qu'il n'est pas mort.
Heureusement qu'il n'est pas mort. Mais enfin bon, il s'en est passé des choses.
C'est pas fini.
Ok,
c'est pas fini.
Et c'est pas fini. Il s'en est passé des choses.
On s'ennuie pas.
On s'ennuie pas. J'ai dit, on lui a demandé de couper un bout.
Ouais, d'accord.
Ça fait pas... pas facile. Maintenant, t'as l'impression qu'Abraham, il est sur les rotules. Il en peut plus. Alors, combien? Et là, on te dit, « Vaïe, acharé, adevarim ha'ele » Vayugad l'Avraham les morts, iné yalda milka gamhi banim le nachor achicha. Ah, au fait, t'as des nouvelles de ton frangin? Bah, tiens, je te donne des nouvelles de ton frère. Le frère qui, en l'occurrence, est, où est-ce qu'il habite?
Haran.
Et quelle est sa situation à Haran?
Il est
Rochaïr. C'est lui le roi de la ville. Il est pépère. Et on te dit, bah voilà, bah sinon moi, imagine, c'est une discussion WhatsApp entre Avraham et Nachor. Comment ça va chez toi? Bah parce que chez moi, non, ça va, écoute, je voulais te dire au courant que j'ai eu mon 12e enfant, voilà, j'ai une femme super, ça s'appelle Milka, puis j'ai aussi une concubine, ça s'appelle Reuma, franchement, elle est sympa aussi, voilà, on a 12 enfants, on est contents, tout va bien. Et toi?
Ouais.
Bah c'est vraiment ça, c'est le juif qui vit à 2 millions d'à l'heure, ici en Eretz Israël, et t'as le juif qui habite encore à Miami et qui dit, oh là là, c'est terrible la manifestation. C'est ça? Achab, toute la situation ici dans la paracha, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? D'où on a besoin de savoir que Bémet, Nahor, il a des enfants.
C'est pour amener Rivka.
Alors c'est pour amener Rivka. Est-ce que c'est que pour amener Rivka?
Ouais.
Parce que si c'est que pour amener Rivka, tu peux te contenter de me dire Vaya Khare Advarim Ele, Vayugad l'Avraham, les morts, Ine, Yalda Milka, et Betuel le Nahor, Rivka ou Betuel Yala et Rivka.
Après,
il
y a des toiles aussi.
Donc ça veut dire que ce qu'on te dit ici, c'est pas que pour te dévoiler la naissance de Rivka.
Il y a des toiles.
Naron ?
Contexte.
La Torah, elle contextualise pas juste pour le kiff. Encore une fois, quand tu regardes dans le livre de Bereshit et que tu vois les naissances de chacun, les généalogies de Shem, Ham, Veyefet et avant même ça de Cain, Veyevel. On ne te dit pas tous les gens qu'ils ont mis au monde. On te dit quel est le mec important dans l'histoire. Et après, il va y aller Bani Umbanot. Là, on prend quand même le temps de te donner tout le monde. On te dit Et Utz Bechoro, Vet Bouzachi, Vet Kemuel Aviaran, Vet Kesed, Vet Chazo, Vet Pildash, Vet Idla, Vet Betuel. Ou Betuel Yatan, Rivka, Shmolele, Alda Milka, Nahoachicha, Ou Pilakcho, Shmareuma, Vatelet Gamet Yet Tavach, Vet Gacham, Vet Tachash, Vet Macha.
Tous ces noms, est-ce que ça a une influence?
C'est ma question. Betuel, je sais que oui. Mais encore une fois, on aurait pu simplement me raconter la naissance de Betuel. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous a raconté tout ça? Hein, la question est bonne.
On peut même l'élargir, cette question.
Alors, vas-y.
Je veux dire, si on...
Café. Deux fois l'histoire, on raconte deux fois l'histoire.
Trois fois plus. Et beaucoup de détails. Détails, par exemple, parce que Rivka abreuve les chevaux.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on a à faire, telle que la preuve des chameaux, qu'on s'en fout des chameaux. Bon, il y a certainement une raison. Et plein de choses comme ça. Et des choses importantes, par exemple, l'anneau que Liesia donne à Rivka avant ou après donc, que vous êtes présenté. Bon, tout ça fait qu'il y a plein de détails. Il y a Ephron aussi, je suis en train de faire. Ephron qui. Les discussions qu'il a à Abraham avec Ephron. Parce qu'on s'en fout de que ça coûte tel prix, etc., etc. Il y a plein de détails d'ordre un petit peu d'ordre pratique, on va dire, d'ordre vraiment qui paraît pas important par rapport à l'essentiel de la parasha, de l'ensemble de la Torah. Et donc, mais si ces détails sont présents, c'est qu'il y a une raison.
Vraiment.
Donc, quelle est la raison ?
Eh ben, la raison, c'est que c'est que tous les petits détails jouent un rôle important dans... Bon, ça, c'est ce que j'ai appris à Grenoble, hein, je suis désolé. C'est tous les petits détails qui a rassemblé les uns à côté des autres, fait que l'essentiel de ce qu'on veut connaître...
Ça, ce que tu dis, est un très très beau discours de rabbin de communauté. Et c'est vrai. Pas que de Grenoble. C'est...
Non, farce, là.
Non, mais c'est vrai, tous les détails de la vie d'un homme font sa personnalité, font qui il est, font qui va. Tout à fait. Mais tu ne m'as pas aidé à comprendre quelles sont la raison des détails. C'est-à-dire, tu m'as dit chaque détail est important, Yofi, Todaraba, Lama.
Bah, c'est qu'il y a une utilité.
Bah, d'accord, mais quelle est cette utilité ? Alors, pour ça, il faut rentrer dans chaque détail et essayer de comprendre. Donc, moi, je m'arrête sur le premier des détails, c'est pourquoi on me raconte la naissance de toute cette famille alternative à Abraham. Et je vous invite à me rejoindre dans le décompte. Nous allons repasser sur le verset que je viens de lire et aidez-moi à compter les enfants à Nahor. Alors je recompte. Alors c'est qui ces enfants ? Et Out Bechoro, Ved Bouz Achiv, Ved Kemuel Aviaram, Ved Kesed, Ved Chazo, Ved Pildash, Ved Idlaf, Ved Betuel. Ou Betuel, il y a la Rivka. Combien il a eu d'enfants donc, Milka ? Combien il a eu d'enfants ? 8. Comment je le sais ? Parce qu'on vient de compter. Et aussi parce qu'il y a marqué juste après, Shmona Elle. Yalda Milka le Nahor Achi Avraham. Ok. Donc il en a déjà 8.
C'est une répétition.
Il y en a 8. Ou Pilaksho. Pilaksho. Donc combien ça concubine elle a donné ? 4. Et peut-être que ça commence à faire tilt. Que Nahor, il a combien d'enfants ? 12. Tiens donc. Et plus que ça, 8 de la femme légitime et 4 de la concubine. Est-ce que ça me rappelle quelque chose ?
Les 12 tribus de Jacob.
Les 12 tribus.
8 de la femme légitime, des femmes légitimes, il y a Léa et Rachel, et 4 des concubines. D'accord ?
C'est
coïncidence.
Coïncidence, évidemment. Qui dit coïncidence ? Coïncidence. Dans tout le livre de Bereshit, à chaque fois que nous avons deux frères qui vont poursuivre une œuvre importante et que la Torah va prendre le temps de nous nommer et nous énumérer les banim, celui qui est le Yoresh, c'est celui qui a un enfant, et celui qui est le mis de côté, c'est celui qui a 12 enfants. Celui qui est l'héritier, il a un enfant, et celui qui est mis de côté, il a 12 enfants. J'en veux pour preuve au début de la lignée hébraïque. au début de l'année hébraïque, donc dans la fin d'un parasha de Noach, on nous dit comme ça, blablabla, et faisait iné. Ou le Shem, Yulad Gamhu avait un iné. Deuxième ? Non, pas deuxième. Ou le Ever, donc Ever, c'est le papa des Hébreux. Yulad Shene Banim. Shem Echad Peleg, qui Beyamav Niflega Aretz, le Shem Achiv Yoktan. Qui va être l'héritier ? Peleg ou Yoktan ?
Peleg.
Et Peleg, il va avoir un fils ? Oui. C'est quoi le fils de Peleg ? Peleg, on va nous dire qu'il a un fils qui s'appelle. Qui s'appelle Peleg. Fils s'appelle Réou. Mais Yoktan, ve Yoktan yaladet almodad vet shalef vet chatzarmavet vet yarach vet adoram vet uzal vet dikla vet oval vet avimael vet sheva vet ofir vet chavila vet yovav. Kol ele bene Yoktan. Il en a 12 plus 1. Dikla, c'est une femme. Et oui, à chaque fois, t'as celui qui est l'héritier, c'est un gosse, et celui qui est la branche, qui n'est pas l'héritier, c'est 12 plus 1. Là aussi, dans notre histoire, on nous a parlé de 12 hommes et une fille, Rivka. Ça commence à faire beaucoup pour être une coïncidence. Ah ah !
Mais c'était
Yakov. Ah ah ! Tout le problème, et eh oui, la théorie, la théorie ne colle pas, puisque dans la théorie, celui qui a 12, il n'est pas l'héritier. Celui qui a 1, il est l'héritier. Donc normalement, entre Yaakov et Esav, qui doit hériter ? Esav ! Eh ben oui, effectivement, c'est Esav qui doit hériter.
Mais Esav, il a eu pas mal d'enfants.
Esav, il a eu 5 enfants. C'est pas 12. Mais c'est Esav qui doit hériter. Comment on sait que c'est Esav qui doit hériter ? Comment on sait que Esav doit hériter ? C'est l'aîné. Et comment on sait aussi que c'est Esav qui doit hériter ? Parce que c'est ce qu'Yitzhak veut faire. Yitzhak, il a prévu de donner la bracha à qui ? À Esav. Donc la théorie, elle marche. Ah ! Lorsque Esav décidera de ne pas vouloir remplir son rôle, alors Yaakov est obligé de devenir Esav. Ok ? À Kol Yaakov, Adam et Esav, il devient Israël et donc il hérite.
Mais il a vendu la Bérora, c'est
possible. Il a vendu la Bérora. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où Esav ne veut pas remplir son rôle.
D'accord,
tu as raison. Donc, à partir du moment où il ne veut pas remplir son rôle, Yaakov est obligé de le remplir. Ok, mais c'est quoi cette histoire de 1 par rapport à 12 ? Bien, les amis, vous aurez pas, ça ne vous aura pas échappé que 12 plus 1, c'est quoi ? C'est la lune, le calendrier.
Non. C'est pas le chiffre Ardout aussi, non ?
Ah, très, c'est Ardout Gargen, Ron. Et le 1, c'est quoi ? C'est le calendrier solaire. Ça bouge pas. Qui est celui qui gère la réalité ? Le soleil ou la lune ? C'est le soleil. Toute la lumière de la lune, elle provient du soleil. Donc normalement, c'est le soleil qui doit guider et la lune, c'est un aide de camp. Le chidouche du peuple juif, c'est qu'on est gam vegam. C'est ça le grand chidouche du peuple juif. C'est qu'on est gam Avraham vegam Nachor. Gam Yitzhak vegam Yaakov. Ok ? Et c'est pour ça qu'on nous raconte ça ici. Puisque maintenant, le nouveau héros de l'histoire, c'est plus Abraham, c'est Yitzhak. Alors que tu saches que tu as une femme qui vient des 12. Tu vas devoir créer une symbiose entre le soleil, c'est-à-dire celui qui agit dans le monde, et la lune qui reçoit dans le monde. Le peuple juif, c'est la symbiose des deux. D'accord ? C'est pour ça que notre calendrier, il est et lunaire et solaire.
On connaît aurait été beaucoup plus simple de nous dire dès le départ.
Ah, c'est ça. Mais j'aurais plus rien eu à te dire. Maintenant, Rivka, c'est elle qui va être donc l'héroïne de notre histoire. Alors, je passe sur la partie de l'achat de Féron. Hein, voilà, je passe sur l'achat foncier. Et j'arrive directement à notre problème. Ve'avram Zaken Babayem. Page 88. 8. Ve'avram Zaken Babayamim Bakol. Qu'il a plein de fric. C'est vrai qu'il a plein de fric. Mais est-ce que c'est ça le Bakol? Non. Que nous dit Rashi? Rashi nous dit, mais c'est Bakol, Vashem Berachet Avram. Bakol, איפה זה? הנה, ברך את אברהם בכל, בכל עולה בגמטריה בן, ומאחר שהיה לו בן, היה צריך להסיעו אישה. Donc c'est quoi que Hashem ברך את אברהם בכל? Ça fait référence à quoi le בכל? A Yitzhak. C'est son fils. C'est ça בכל. Ah, arrive la Gemara במסכת בבא בתרא ואומרת לא מסכים. Rashi, je suis pas d'accord avec toi. Bon, Rashi, ça vient pas de lui. C'est un autre avis de la Gemara.
Mais hein? C'est avant Rashi.
Oui, oui. Rashi ne fait que citer un des avis de la Gemara. Mais la Gemara, elle dit j'ai un autre avis. Mazé Bakol, Avi Aleph, qu'il avait un fils. Et c'est ça le la bracha. Bakol, Gematria, Ben. Ok. Deuxième avis de la Gemara, Mapitom. והשם ברך את אברהם בכל שהייתה בת לאברהם ובכל שמה.
בת לאברהם.
כי להביא נפי, אקל ספלה, בכל. אתה תשכו נביא די ניקול. כי פת רזון כאילו פי ספלה ניקול, ופה בכל, זה אותו דבר.
יא ניקול, ני בכל.
כבר אברהם הביא נפי, אל ספלה בכל? זה נובו. זה חידוש. Zagma, Aval Miyad, le Ramban, il vient et il dit hop, 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 calmez-vous. Quand la Gemara, elle dit que Avraham avait une bat, ne pense pas qu'il avait une fille. Bat, ça veut dire Mida. Que Avraham avait une qualité qui s'appelait Bakol. C'est-à-dire que Avraham était quelqu'un de Klali, Shalem. Ne pense pas qu'il avait une fille. Donc le Ramban explique la version de la Gemara, qu'en fait, il n'y avait pas de fille. Troisième avis de la Gemara, c'est quoi, Bakol? Shelo Ayalobat. Shelo Ayalobat. Qu'il n'avait pas de fille, c'est ça la bracha. Si on fait l'ensemble des trois avis, premier avis, qu'il avait un fils. Deuxième avis, qu'il avait une fille, mais ce n'est pas une fille, c'est une qualité. Troisième avis, qu'il n'avait pas de fille. Quel est le point commun des...
Ah ouais.
Voilà. En 2021, il y a un rabbin à Jérusalem qui dit que c'est bien de ne pas avoir de filles. Voilà, vous allez voir maintenant sur tous les réseaux, je vais être catalogué comme étant un rabbin rétrograde,
ouais.
Un rabbin MeToo.
Ouais, ouais.
Hein? Ah, j'ai dit 21
ouais.
T'as vu ben,
ouais.
Non, comme ça, je bluffe. En 2023, attends, pourquoi j'ai dit 21 moi?
Moins de Touma dans le monde.
Ça, il faudrait réfléchir au niveau psychologique. Pourquoi j'ai dit 21? Est-ce que j'ai eu une fille en 2021? Non, j'ai pas eu de fille en 2021. En tout cas, en 2023, vous imaginez un rabbin qui parle comme ça? On peut pas imaginer. Hashtag dénoncer le rabbin. Tov. Alors, pour la postérité et pour Internet, j'ai trois filles. Et je suis très content et c'est une grande bracha. Maintenant, pourquoi est-ce que chez Avraham, c'est une grande bracha qu'il n'ait pas de fille? C'est très bien les filles. Mais pas quand tu t'appelles Avraham, ni quand tu t'appelles Yitzhak. Pourquoi? Parce que si tu as une fille, il faudra quoi?
Ben,
il faudra la marier. Or, à l'époque, et on refait pas l'histoire, à l'époque, celui qui porte, pas les culottes, ni les brés, mais celui qui porte la tradition familiale, c'est le père, c'est l'homme. Et donc si moi maintenant je dois marier ma fille, je dois l'amener, la marier avec une identité qui est extérieure au projet d'Israël. Et donc je vais rentrer dans la formation du peuple juif une identité extérieure. Et ça, ça va pas. Lorsque l'identité d'Israël est construite, c'est-à-dire qu'il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, à ce moment-là, Yaakov peut avoir une fille, Dina, parce que l'identité d'Israël est en place. Et donc, on n'a plus peur. Mais lorsqu'on est en train de construire l'identité d'Israël, ok, il a un fils, mais il va quand même falloir le marier. Alors, qui est cette fille providentielle qu'on doit trouver à Yitzhak? Eh bien, c'est ça qu'on va trouver là. Et donc, pour Abraham, la seule qualité qu'on a besoin chez elle, c'est quoi? C'est qu'elle soit chez nous. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham, à Eliezer? Il dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais tu vas trouver une femme dans ma famille. Zéou.
Débrouille-toi.
Il n'y a pas 36 solutions, de toute façon. Mais c'est dans ma famille. Je ne veux pas que tu prennes une fille d'ici. Quoi? Une Israélienne? Pas classe. Une Israélienne?
C'est Nahor. C'est tous des bandits, des voleurs.
Des bandits, tu ne sais pas encore. Non, tu ne sais pas encore. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne sais pas encore que la vanne, c'est la vanne.
C'est des voleurs.
Non, tu ne sais pas encore. Tu ne peux pas dire ça. Peut-être qu'ils n'étaient pas des voleurs à ce moment-là.
Il n'y a qu'à lire Rachid. Qu'est-ce qu'il pense là de Rachid?
Quoi?
Non, ce que tu dis est vrai.
Mais c'est pas encore vrai.
Oui, bien sûr.
Toi, t'as vu la fin du film?
Il a vu la fin du film.
Ben oui, mais moi, j'ai pas encore vu la fin du film. Moi, je veux le suspense.
Nous, on recommence notre film.
Ben voilà, mais moi, je suis dans le suspense. Non, les amis, la famille d'Abraham, c'est des idolâtres. Nahor, il a pas suivi Abraham dans le monothéisme. Donc, c'est-à-dire que tu préfères aller dans une famille, des gens qui ne sont pas religieux, mais de la famille, plutôt que quelqu'un de tzaddik, mais pas de la famille.
Il y avait peut-être une morale. Il n'y a pas besoin d'être...
C'est-à-dire que je veux créer un peuple...
Il n'y a pas besoin d'être... Pour ceux qui ont la morale, qui ne veulent pas être religieux, ça va, c'est s'ils sont moraux, s'ils sont...
Non, mais là, ce n'est pas une question de morale. C'est une question que je veux un peuple. Et donc, j'ai besoin de lien familial. On est en train de créer le peuple d'Israël qui est la prolongation du peuple des Hébreux. Donc, évidemment que je veux quelqu'un qui vient de la famille. C'est ça la qualité première, qu'elle vienne de notre identité. Parce que les actions, ça se corrige. Oui, monsieur?
Non, mais...
Vas-y.
C'est une voie différente. D'abord, deux choses. Deux raisons. Depuis Adam et Ève, etc., et jusqu'à Noé, etc., on n'a cité que des garçons. Il n'y a jamais, jamais le nom d'une fille.
Si.
Bon, alors, posez des questions.
Il y en a plein.
Bizarre qu'il n'y ait pas de filles.
Il y a plein de filles.
Pas de filles, jamais de filles.
C'est faux.
Hein?
Il y a plein de filles. Il y a plein de filles dans la Torah. Dans la génération qui cite de Noir. Je...
Ah si. Non, pas de filles. Non, mais
c'est
après Lot, etc.
Alors, je veux pas te casser ton truc. Redis la phrase en disant il n'y a pas beaucoup de filles.
Mais les filles ne sont pas citées.
Si.
Dina, citée, bon, elle arrive.
Et tu fais quoi de Naama?
Non, mais je veux dire qu'elle n'a pas de rôle important.
Voilà. Bah c'est la femme de Noir.
Il y a une transmission qui se fait.
Ça, c'est la femme de Noir. C'est la femme de Noir. C'est la femme de Noir.
Hein.
C'est la femme de Noir.
La femme de Noir, bah
oui. C'est la maman de Shem, Ham, et fait petit rôle.
Petit rôle. Il faut bien.
Faut bien qu'il y ait une femelle, écoute.
Faut bien qu'il y ait des femmes.
Évidemment.
Faut bien qu'il y ait des femmes.
Mais on parle de Noah, on parle pas de la femme, on ne même pas le nom de la femme de Noah.
Mais je viens de te dire qu'elle s'appelle Naama.
Oui, mais bon, personne, on aurait posé la question, personne n'aurait su.
Et on fait quoi? Attends. On fait quoi de. Et tu fais quoi de. Attends, tu fais quoi de. Tu fais quoi de Ada et Tzila?
Il me semble que. C'est plutôt en tant que femme d'Abraham.
Ada et Tzila, les femmes de l'Emer.
Même chose. Et bon, mais ça c'est au sujet du choix de la demande d'Abraham à il ne veut pas, bon, on comprend pourquoi, ce sont des idolâtres. Simplement, c'est que aller chercher là-bas du côté de Bethuel et de comment il s'appelle
Lavan.
Et de Lavan, mais du père de Bethuel.
Nahor.
Bon, c'est des idolâtres aussi. Et puis on, plus tard, on ne citera pas, on dira pas Lavan ivrite. Donc en dehors. Donc
c'est bizarre. Donc c'est la preuve que ce que j'avance, c'est ça. C'est pas que c'est des tzadikim. C'est ce qui intéresse Abraham, c'est pas les actions.
La question que je veux dire, c'est qu'il va chercher les herbes. Bon, la demande d'Abraham, chercher une femme en dehors du pays de Canaan. Il lui dit, va à tel endroit. Non pas parce qu'ils ne sont pas idolâtres, ils sont idolâtres. Tout le monde est idolâtre autour d'Abraham. Simplement, c'est qu'aller chercher une femme en dehors de cette région permettra ensuite, quand elle viendra dans notre famille, elle ne pourra pas s'identifier aux gens qui l'entourent. C'est-à-dire que s'il avait pris une cananéenne, par exemple, normale, comme ils savent, comme les autres, et donc elle aurait été, elle serait appuyée, elle aurait un, comment dire, un choresh.
Oui, je comprends ce que tu dis. Tu dis, si elle avait pris une israélienne, elle aurait pu être tout le temps chez ses parents.
Voilà, exactement.
Voilà. Alors que l'autre, elle est très loin, donc il ne peut pas aller chez papa et maman.
Ouais, j'ai pas été clair, mais bon.
J'entends ce que tu dis. Mais l'essentiel de la recherche d'Abraham, c'est des idolâtres, il y en a partout. C'est pas ça qui me dérange, parce qu'on va lui faire tchouva. Mais je veux qu'elle vienne de ma famille, je veux qu'elle vienne de mon identité profonde. Je veux que ce soit une hébraïque. Après, elle fait.
Il le dit pas.
Bah, quand il lui dit, qu'elle a aussi vel moladeti teler. Ok, lorsqu'il va lui dire Elohe Hashem Elohe Hashamayim Asher Lekachani Mibet Avi, c'est-à-dire que c'est là qu'il l'envoie. Donc il l'envoie chez la maison de mon père, chez Nahor. C'est pas, il va pas n'importe où. Donc si tu veux, Abraham lui donne une mission très claire, et tu as raison de dire, c'est pas, je veux pas, je cherche pas une tzadika. Il se trouve que Rivka va être sa déquête Gdola Meod. Mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche une femme qui porte la même identité profonde que moi. Après, les actions, on va travailler. C'est-à-dire que d'abord, je me marie avec une juive, et après, on verra si elle fait Shabbat. Ok ? Mais c'est ça ? Ok, alors, très bien. Et ben, on y va alors. Alors on y va. Et Abraham lui dit, surtout tu prends pas une femme d'ici. Maintenant, Abraham il connaît les femmes d'ici. Il sait bien qu'il n'y en a aucune qui est légitime pour son fils. Sauf une. Il y en a une qui est légitime pour son fils. C'est la fille de Eliezer. Eliezer, son serviteur, il a une fille. Et c'est ce que pensait Eliezer, évidemment. Et voilà. Et donc, et ça, d'ailleurs, cette fille-là, sans connaître Rivka, parce qu'il ne la connaît pas encore, mais il dit, mais ma fille, c'est une élève d'Abraham. C'est le top.
Oui, mais c'est un Syrien ou un Libanais.
Mais d'accord, mais maintenant, je suis le serviteur d'Abraham. Depuis combien de temps je suis son serviteur? J'ai mis ma vie en danger pour lui. Je suis avec la... Qui de mieux que ma fille? Et justement, ta fille, elle est certainement très bien, mais elle ne fait pas partie de la famille. Elle est malade. Et donc, il lui demande de prêter serment. Comment on fait pour prêter serment?
On met la main sur eux.
On met la main sur eux. La main.
C'est la seule chose qu'il y a.
C'est pas
la seule preuve.
Il y a
seule
hot.
Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on recherche une femme dans la famille, mais également... Ce qui nous motive, c'est la mitzvah. La mitzvah. Ah ah, ok, très bien. Alors on y va. Donc ça veut dire quoi? Il faut le peuple et Dieu. Tov. Alors il est parti. Et là, comme tu dis, la Torah se répète. Donc moi, je ne vais pas me répéter. Et je ne vais pas repasser sur toute l'histoire. Et il arrive, et les chameaux, et l'eau, et l'abreuvoir, et tout ça, et tout ça, et tout ça.
Les chameaux, ils sont
pour toi,
c'est beaucoup ça.
Ah, ils sont
importants. C'est important.
Oui.
À
Koltov, tu as tout à fait raison.
Et même c'est tellement important qu'il raconte deux fois la même chose. Il y a deux fois le même sipour.
Tout ça c'est vrai. Tout ce que vous dites est vrai. À Koltov. Mais j'ai envie de survoler cette histoire-là et d'arriver à Iné. Page 94. On regardait la page 94, mais on y reviendra en deux secondes. D'abord, la page Iné. Page 91. D'abord, page 91. Donc il l'a rencontré, il lui a dit t'es la fille de qui? Tout va bien. Va tomer, verset café. Va tomer elav gam teven gam mispora vimanu gam makom la lun. Va ikod a ish va ishtachu la Hashem. Donc elle lui dit tu peux venir, on a de quoi donner à manger à tes troupeaux, enfin tes chameaux, ce que tu veux. Viens à la maison. Je ne vais pas passer sur le fait que toute la rencontre avec Rivka est placée sous l'égide de Midat HaChesed. Et c'est justement la Mida inverse de Avraham et de Yitzhak qui est Midat HaDin. Donc c'est bien pour pouvoir.
Une bonne union.
Voilà, bonne union entre le Midat HaDin de Yitzhak et Chesed de Rivka. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle rentre à la maison. Une fois qu'elle rentre à la maison, va tarot pasuk kafret, va tarot sanehara, va taged le betima, kadvarim aele.
Mais lui, il lui a déjà mis les anneaux.
Bah oui.
Il savait pas que c'était son nom.
Ah, tu as raison. Comment est-ce qu'on arrange ce problème-là? Je vais pas développer. Je vais simplement te dire que dans toute cette histoire, il y a deux personnages qui évoluent en parallèle. Il y a Eliezer et il y a celui qu'on appelle Aïch. Aïch. Yesh Aïch. Vesh Eliezer. Aïch, c'est un malach. Parce que Avraham avait promis à Eliezer, Vaishlach malacho lefanecha. Donc il y a Aïch, Vesh Eliezer. Et donc Aïch, il sait des choses que Eliezer ne sait pas. En tout cas, Rivka, elle arrive à la maison. Vatarot sanara, vatagad lebetima, vatagad vekadvarim aele, ou le Rivka ach. Ou shemo, Lavan. Vatarot Lavan, el Aïch, achutza, el Aïn.
Monsieur Leblanc.
Monsieur Leblanc. Vayi kirot et anezem vet atzemidim al yede achoto, ou ke shom'o et divrei Rivka achoto lemor, ko diber elai ha'ish, vayavo el ha'ish, veine omed al ha'gemalim al ha'ain. Et la parole de Rabbi Lavan ben Betuel Shlita, Omer Lavan ben Betuel Shlita, Yomer bo. ברוך השם, למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים? איזה צדיק. Vous avez vu comment vous êtes méchant? Vous êtes méchant. Vous le connaissez même pas. C'est la première fois qu'il apparaît dans la Torah et la première chose qu'il dit c'est Baruch Hashem et vous allô?
On connaît l'histoire, c'est ça le problème.
Et oui, mais ça, c'est un vrai problème. C'est que tu ne peux pas analyser les versets parce que tu connais la fin du film. Il dit Baruch Hashem. Mais attendez, ça va beaucoup plus loin. Quand on va un tout petit peu plus loin dans l'histoire, donc Eliezer, il raconte toute l'histoire, ta 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 ta, et finalement, on arrive à la page 94, et finalement, il dit verset même tête. ואתה, אם ישכם עושים חסד ואמת עם אדוני, אגידו לי. ואם לא, אגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל. אליעזר דיבור, je vous raconte toute l'histoire. Écoutez, si vous êtes d'accord de me donner Rivka, très bien. Sinon, dites-le moi. Est-ce que je dois aller chez les filles d'Ishmaël ou chez les filles de Moab? Ben, je dois continuer à chercher une femme dans la famille d'Abraham. Si c'est pas vous, alors ce sera ou avec Ishmaël ou avec Amon ou Moab. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'il répond? Rabbeinu Agadol Lavan Shlita. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Vayan Lavan Obtuel Vayomru. Mehashem Yatsa Davar.
Ouais.
Omeret Agemara. Mehashem Isha Leish. C'est Dieu, hein? C'est Dieu qui fait des ivougim. Comment tu sais que c'est Dieu qui fait les zivugim? Shenemar. Mais Hachem, yatsa adava. C'est-à-dire que la Gemara, elle apprend de Rabbeinu Lavan Agadol.
Il a gardé quelque chose quand même.
Hein, c'est bizarre cette histoire. Hein, bizarre. Et puis attends.
On lui donnerait le bon Dieu sans confession.
C'est ça. Et là on dit, Ine Rivka lefanecha, kar valer, utechi aisha leben adonecha, kasher diber Hachem. C'est yafé. Et ça continue. Parce que finalement, il dit quoi? Il dit, va yetzer evet le kesev le nana, va yochelu, va yishtu, va nashim. Ensuite, il y a marqué, va yomer achia veima, teshev en ehara itanu yamim oasor. Achar teler. On a accepté qu'elle se marie avec eux, mais restez un peu. Pas peine de repartir tout de suite. Va yomer alem, al te acharu oti ve Hashem itzliach darki, shalchuni ve elcha la adoni. Donc laissez-moi partir, il faut que j'y aille. Va yomeru. Nikra la Nehara venishala et Pia.
Ah, quand même.
Non, non, non. C'est halakha. C'est halakha ba halakha.
Il faut pas la forcer.
Que tu n'as pas le droit de marier une femme sans lui demander son avis.
Bien sûr.
Minain la choulomdim et ta halakha azot. Mimorenu agadol. Reblavan. Hein? Eh. Là, c'est le beau-frère. Le beau-frère. Parce que Chazal va nous dire que la même nuit, Betuel est mort. C'est lui, Lavan, qui gère maintenant la famille. Eh, Baruch Hashem, mais Hashem yatsa adavar, il chot ratuna, qu'on doit demander la permission à la fin. Et puis attends, vaishal lechou et rivka, achotam, parce que il y a marqué vaikrou et rivka, vaimrou et lea, hatelchim, aishase, vatomer elech. Ken, vaishal lechou et rivka, achotam, vet menikta, vet eved avram, vet anashav, vaivarechou et rivka.
C'est 100%.
Tzadik.
Ils ont gardé des. Il y a quand même des.
Tzadik, hein? Machou.
Il y a des étincelles.
C'est machou. Shnia. Embirchou et Rivka. Et ils ont dit quoi? Nous dit la Gemara. Ça, c'est après. C'est le bonus. Nous dit la Gemara de Maseret Kala. Qu'est-ce qu'il a dit comme bracha Lavan? Il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Asher kidshanu b'mitzvotav etzivanu al ha'arayot ve'asar lanu et ha'arusot ויתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים. ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. C'est ça qu'il a dit. מניין לברכת חתנים מן התורה?
C'est lui.
Rabbeinu Lavan?
Oui. Jamais on l'aurait cru.
Je disais qu'il n'y avait pas de mitzvot de la Torah avant.
Bon, la Brit Mila, ça a été donné à Abraham. Ron, mais c'est pas pour Klal Israël.
La Torah, c'est on apprend.
Non, là on t'a pas demandé, on n'a pas dit minayin le mitzvat nisuin. On a dit minayin le birkat chatanim. C'est pas la mitzvah.
Je révise ma position.
Hein, t'as vu? Ça dit qu'un Reb Lavan.
Je révise ma position.
Rabbi Lavan ben Betuel Shelita.
Ouais.
Zatzukal. Tov, je rappelle qu'on a un vrai problème parce que effectivement, si on lit uniquement la paracha de Chayesara, c'est un tzaddik le Lavan. À Lavan, on aimerait tous avoir un mechoutan comme ça. Machou. Et Lama. Nous, on connaît la suite du film. Hein?
Faut éviter de lire Rachid.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Quand il se met à courir Lavan.
Non, il y a marqué ici dans Vayan Lavan Obtuel. Quand il y a marqué Vayan, Lavan, Obtuel, Vamrou, Mehachem, Yetza, Davar. Alors Rashi Omer, Racha, Aya, Vekafatz, la Chiv, Lifne, Aviv. Il est passé devant papa, Racha. Bon, mais tu vois que Rashi, il porte en lui tout ce que nous, on sait de nous aussi, de Lavan.
Il connaît l'histoire.
Ça veut dire. Mais alors, si tu lis uniquement le texte, il n'a rien fait de mal, le pauvre Lavan. Comment ça se fait que quand tu lis la Haggadah de Pessah, Tu dis, Paro, c'était un petit joueur à côté de Lavan.
Ami Obed Ami.
Tse ulmad ma bikesh Lavan al ami. Chez Paro, veut tuer les Juifs. Ça, c'est pas chouette qu'on va pas le laisser faire et qu'on va le détruire. Lavan, pour Otse, l'accord est à col. Il veut tout déraciner. Il veut tout déraciner. L'accord. Déraciner, assimiler. Allez, arrête Lavan. Il est de quelle famille? C'est un hébreu. C'est pour ça qu'Abraham il l'a envoyé là-bas. D'accord? Sauf que dans la Torah, on l'appelle Lavan à Arami. C'est-à-dire que Lavan, tout ce qu'il veut faire, c'est assimiler. Il veut assimiler. Et comment, c'est quoi sa technique pour assimiler? Reste là. Il dit d'abord à Eliezer, allez, reste un peu. Yami, moi, sort. Pareil, il va faire pareil avec Yaakov. Écoute, reste un peu. 7 ans, qu'est-ce que c'est 7 ans? Et encore 7 ans. Et encore 6 ans. Alors, on peut rester un peu en France. Pas obligé d'aller en Eretz Israël. C'est bien Israël. C'est chouf, meode. Mais ça se prépare, l'Alia. Hein, c'est pas sur un coup de tête. Miami, c'est mieux. Lavan, c'est le némésis d'Israël. Le némésis. Ouais, dire des mots en grec, comme ça, ça fait bien. Lavan, c'est l'alter ego. Parce que dire des mots en latin, ça fait bien aussi. Lavan, c'est l'antithèse d'Israël. Ouais.
Quand on a étudié, quand on était gosse, au lieu de dire Lavan à Arami, il y a un mot. On a l'arabe Harami.
C'est ce que je crois. Ah ouais? Et ben voilà, Lavan Harami. Et ben voilà. Nakhon? Et ben voilà. Maintenant, ce Lavan, c'est l'antithèse d'Israël. Mais ça veut dire quoi l'antithèse? C'est-à-dire qu'il connaît très très bien Israël. Il sait très bien qu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu. Il sait très bien qu'il est l'instigateur de la Kedusha dans le monde. Et il sait donc très bien que s'il veut en profiter, il doit se l'approprier. Il le sait qu'il est la branche qui n'est pas l'héritier. Et donc il va faire en sorte que l'héritier vienne à lui. Vous connaissez des pays où il y a eu l'âge d'or des Juifs dans ces pays? L'âge d'or des Juifs d'Espagne, l'âge d'or des Juifs en Pologne, heureux comme un Juif en France.
Des périodes.
Hein? Parce que je veux m'approprier cette force-là. Ah, non, quand j'ai puisé tout ce que j'avais à puiser, c'est comme Melech Hadash, Al Mitzrayim, Asher Lo Yada Et Yosef. Lavan, c'est tout ça sa technique. Bien sûr que je connais les halachot, nous dit Lavan. Nikra la Nehara Venishal et Pia, on va lui demander, parce que je connais la halacha dans ma Maseret Kala. Et je sais qu'il faut faire des brachot avant la Khatuna. Vadaï, vadaï. Nachon, vadaï. Maintenant, Rivka, c'est son frangin.
Mais elle le connaît quand même.
Elle le connaît super bien. Voilà. Et elle connaît son père. Et son père, Betuel, nous dit le Midrash que ce n'était pas vraiment un grand sadique non plus. Parce que il était, quand il a pris la royauté de la ville, il a rétabli le droit de cuissage.
Oh là là.
Mais les gens de Haran, ils lui ont dit d'accord. Je comprends que c'est un kavod qu'on donne au roi. Mais à une condition. C'est que ta fille aussi. Et c'est pour ça que le soir où Eliezer arrive... Dieu, il fait mourir Betuel pour pas qu'il aille avec sa fille à ce moment-là. Pour qu'elle reste comme il faut pour Yitzhak. Betuel, c'est pas un tzaddik. Lavan, c'est pas un tzaddik. Il passe très bien. Mais nous, on connaît la suite du film. Et donc, la vraie question, c'est mais attends, mais comment elle a fait Rivka pour être tzaddika comme ça?
Elle était jeune.
Elle était jeune. Elle a pas eu le temps de. Elle avait 3 ans. Elle a pas eu le temps de. Ça joue, ça joue, ça joue. Il n'y a pas marqué qu'elle avait 3 ans. C'est le Midrash qui nous dit ça.
Il y a marqué qu'elle avait 3 ans, elle porte des étruches d'eau.
Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Hein? Si peu. Hein? Beaucoup d'humilité, beaucoup de tzidkout, beaucoup de chesed. beaucoup de Emet. Beaucoup de Emet chez Rivka. Et Rivka, elle est la preuve que le libre arbitre, ça marche. Rivka, elle vient. Hein? Nahon? Elle peut changer. C'est-à-dire que Rivka, elle a grandi dans une ambiance d'idolâtrie, de fourberie, d'immoralité. Mais Rivka, elle décide d'être quelqu'un de bien. On a tous des netune pticha, on a tous des points qui sont les points de départ avec lesquels on doit composer. Et ces points de départ, ils peuvent être physiques, avec ce que mes parents ils m'ont légué au niveau génétique, et ça peut être aussi environnemental, et ça peut être dans quelle communauté je suis, et dans quelles ambiances, et dans quel truc. Mais après, c'est toi qui choisis d'être bien ou d'être pas bien. Rivka, la première décision qu'on voit de sa part, c'est de décider de faire comme Avraham. De décider de partir de sa maison également. Elle décide de se créer sa propre histoire.
C'est très bien, mais par rapport à l'âge qu'on nous dit qu'elle avait 3 ans, comment un bébé peut décider ?
Et donc c'est pour ça que la Torah, mon ami, que la Torah, elle ne t'a pas dit qu'elle avait 3 ans. C'est pour ça que c'est seulement le Midrash qui t'a dit qu'elle avait 3 ans. Et comme tu te rappelles...
Il y a quelqu'un qui l'a sorti, ça.
Non, mais il n'y a pas de problème. Mais d'accord. Mais le fait que quelque chose ne soit pas marqué dans la Torah et soit marqué dans le Midrash, ça a une importance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne veut pas que tu comprennes la Torah uniquement par le Midrash. On veut que tu comprennes la Torah avec ce qui est marqué dans la Torah. Dans la Torah, il est marqué que c'est une jeune femme qui va sortir les troupeaux, qui va abreuver tout le monde, qui est responsable, machin. Dans ta tête, elle a 20 ans. Alors, peut-être pas 20 ans, mais dans ta tête, c'est quelqu'un qui est largement capable de prendre des décisions. Après, on te dit, on va lui demander ce qu'elle en pense, on va lui demander... Et tu vois que c'est quelqu'un qui a une date.
Quelqu'un qui étudie, qui veut comprendre, il essaie de voir les sources.
Mais j'ai pas de problème. Mais le quelqu'un qui étudie et qui voit les sources, il doit absolument comprendre que le fait qu'il y a un truc qui est marqué dans la Torah et l'autre qui n'est pas marqué dans la Torah, ça a une importance. Maintenant, pourquoi on te dit qu'elle avait 3 ans ? On te dit qu'elle a 3 ans dans le Midrash pour que tu comprennes que c'est une femme qui est authentique, qui est pure, qui n'a jamais rien connu de mal.
À cet âge-là,
mais en vrai, elle n'avait pas 3 ans. En vrai, on s'en fiche de savoir si elle a 3 ans ou pas. De la même façon que dans la Torah, on ne te dit pas que Yitzhak, il a 37 ans. On ne te dit pas ça à ce moment-là. C'est-à-dire que à un moment de la Akedat Yitzhak, Yitzhak, il a 37 ans. Comment on sait ? C'est le Midrash qui me dit. Moi, dans la Torah, on ne m'a pas dit. Et c'est uniquement parce que le Midrash m'a dit qu'il avait 37 ans qu'on te dit que c'est à ce moment-là qu'on annonce la naissance de Rivka. Donc ça veut dire qu'elle a 0 ans au moment où lui il en a 37. Donc si on te dit qu'il a 40 quand il se marie avec elle, donc elle a 3 ans. Mais tout ça, c'est un calcul fait par le Midrash. La Torah, elle ne m'a pas parlé de ça. Pourquoi la Torah, elle ne m'a pas parlé de ça ? Parce que c'est le Chashuv pour comprendre l'essence de la chose. Le Midrash, il vient t'expliquer la moitié d'un Drash. Parce que c'est un Midrash. Et donc le Midrash, il vient te donner une autre lecture. Il te dit, mais sache que elle avait 3 ans. Est-ce que physiquement elle avait 3 ans ? Non, c'est pas le débat.
Ouais, mais à partir du moment où tu connais, tu prends connaissance.
Mais le Midrash n'est pas à prendre.
Donnée, attends. À partir du moment où tu prends connaissance de cette donnée et que tu lis la Torah, tu dis à quelque chose qui
te parle.
Ça marche pas.
Le Midrash n'a pas forcément une vocation historique, physique.
Oui, mais à partir du moment où tu sais que par déduction. Tu es arrivé à trouver qu'elle avait 3 ans à ce moment-là. À 3 ans, un gosse, il ne peut pas prendre des décisions, il ne sait pas où il est.
Mais c'est pour ça que la Torah, elle ne t'a pas dit qu'il avait 3 ans. Parce qu'elle n'avait certainement pas 3 ans.
Eh bien, c'est ça que je dis. À 3 ans, elle portait les...
Donc, c'est ce que je te dis. Donc, elle n'avait pas 3 ans. Mais le Midrash te dit qu'elle avait 3 ans. Pourquoi ? Pour te dire qu'elle était pure comme une... Elle était tzadika comme une fille de 3 ans. C'est tout.
Elle peut être pure à 20 ans aussi.
Mais Nahon, elle a 20 ans, mais elle est aussi... innocente, sadika, parfaite, que quand on a 3 ans. De la même façon, quand on te dit que Malkit Tzedek, Meler Shalem, c'est Shem ben Noar. Rashi, il cite le Midrash. Il dit c'est Shem, le fils de Noar.
Malkit Tzedek.
Compliqué en termes de génération. C'est compliqué. Nahon. Quand on te dit que par exemple, Og, Meler Habashan, Og,
ouais.
C'est Eliezer, Eved Avraham. Donc ça veut dire que quand Og il se bat contre Moshe, il a 400 ans. Et ça dérange personne. Mais si ça dérange, parce qu'il n'avait pas 400 ans et c'était pas Eliezer. Mais le Midrash te dit que c'était Eliezer. Alors, ça veut dire quoi? Quand le Midrash te dit, lui, c'est...
Il vient nous tourner la tête avec ses Midrashim.
Mais oui, le Midrash vient te dire, voilà une autre façon de comprendre, que Og, c'est le descendant direct de Eliezer. Il porte la même idéologie que Eliezer.
Ils le disent que c'est un descendant.
Mais c'est sa façon de le dire. C'est sa façon de le dire, c'est son langage. C'est son langage. Il faut juste apprendre le langage du Midrash.
Il faut étudier.
Le Midrash n'est pas apprendre au sens propre. Quand le Midrash te dit que la lune est venue se plaindre à Dieu en disant « il n'y a pas de raison que tu m'aies créé à la même taille que le soleil, ça ne se fait pas. » Et Dieu lui a dit « t'as raison, je vais te rapetisser et je te donne les étoiles. » Ça ne s'est pas vraiment passé dans l'histoire que la lune elle est venue voir Dieu.
C'est comme quand tu racontes une histoire.
Il a fait. C'est un Midrash. Maintenant, c'est vrai, mais ce n'est pas physique, ce n'est pas historique. Le Midrash n'est pas faux, il est vrai. Il vient nous apprendre quelque chose, mais il ne vient pas forcément nous apprendre une réalité historique. Donc, ici, il ne faut pas s'exciter sur le fait que Rivka, elle n'a que 3 ans. Elle n'a certainement pas 3 ans. Ok ?
Elle était jeune.
Elle était jeune, peut-être, mais suffisamment âgée pour prendre des décisions. Suffisamment âgée pour pouvoir être bar dat, pour pouvoir se marier. Donc, elle avait 12 ans, minimum. Ok ? Donc tout ça pour nous dire quoi ? Maintenant, midrashiquement, elle a 3 ans. J'ai pas de problème. Donc tout ça pour dire que Rivka...
Yitzhak, il a été père à 60 ans.
Ouais. Okay. Mais à aucun moment, on te donne l'âge de Rivka ?
Tu peux déduire de ça. Si elle a été enceinte, elle a donné des enfants quand lui, il avait 60 ans.
Oui.
Ça veut dire qu'elle, elle avait au minimum...
12 ans.
Non ?
12 ans.
Non,
pourquoi pas.
Non, de 37 à 60, ça fait 22, 23 ans.
Ah, tu dis de... Oui, tu as raison, tant pour moi, tu as raison. Mais encore une fois, pas 37, 40. 40. C'est-à-dire, donc, à 40 ans, ils sont mariés. Quand ils avaient 40 ans, ils se sont mariés. Donc, tu as raison, ça a mis 20 ans. 20 ans qu'il y a des enfants. Maintenant, quel âge elle a? Donc, elle a 12 plus 20. Elle a minimum 32 ans. Ça va, Mara. 32 ans, ça passe.
Ça
va.
Ça me dérange pas.
C'est sûr qu'elle avait plus de 3 ans. Parce que quand il l'appelait pour lui dire, est-ce que tu acceptes de te marier? Elle n'avait pas 3 ans.
N'accord.
Sa réponse était nulle.
N'accord.
C'est folle.
N'accord.
C'est tout ce que
je veux dire. Donc ça veut dire que Rivka, elle nous montre la force du libre arbitre. Bien qu'elle ait grandi dans une ambiance qui n'est pas top, elle décide de devenir une tzadika, et ça, c'est la preuve que ça marche, le libre arbitre. Hazak Baruch.